Daniel Lachance, bonjour.
Oui, bonjour. On vient
Oui.
d'entendre, vous avez sûrement reconnu, ceux qui connaissent déjà Joni Mitchell, on vient d'entendre Both Sides Now.
Ouais.
Je pense que c'est une de ses meilleures, à mon
Ah, mais ça a
avis.
été repris par plusieurs chanteuses américaines aussi, cette chanson-là. Parce que, oui, là,
Oui.
je viens de vendre la mèche parce que, oui, Joni Mitchell
Oui.
est canadienne. Alors, pour l'anecdote, parce que c'est le fun de commencer souvent avec une anecdote. Alors, vous savez que la langue anglaise, moi, je la parle très bien, j'ai même travaillé en anglais, mais je l'ai apprise quand j'étais à l'université à Ottawa. Il y a plusieurs années de ça. Il y a bien des gens qui n'étaient même pas au monde quand j'étais à l'université. Mais cela dit, il fallait que j'apprenne l'anglais parce que c'était pas évident là, de travailler là, à l'université anglophone. Hein. Alors, la prof d'anglais était un peu une ancienne, en fait, une hippie, et puis Joni Mitchell était son idole, et puis on a appris l'anglais en chantant ses chansons, dont celle-ci. Alors, je la chantais pendant que on était hors d'onde, qu'on écoutait la chanson tout à l'heure.
Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on apprend plus facilement quand on est plus jeune et surtout avec la musique, je pense qu'on retient plus facilement
Tout à
aussi
fait,
les
tout à fait.
paroles. J'ai beaucoup appris l'anglais en écoutant des chansons aussi parce que j'avais un prof, moi c'était au secondaire, j'avais un prof qui nous faisait écouter des chansons, il nous donnait le texte et il enlevait des mots. Il fallait qu'on complète les mots qui manquaient.
Quelle bonne idée.
Et je me souviens qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai apprises par cœur de cette façon-là.
Alors,
Et
Joni
pour en revenir.
Mitchell, allons,
Oui,
oui.
pour en revenir à Joni Mitchell, vous disiez tantôt qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont repris cette chanson-là. Et d'ailleurs, même chez nous, la chanteuse Luce Dufault en a fait une version très intéressante. Je vous invite à faire une petite recherche. C'est disponible sur YouTube, c'est
Oui.
disponible un peu partout.
Il y avait
Et
je pensais à l'artiste aussi, Judy Collins. En
oui,
fait, celle
oui,
qui l'a
oui.
vraiment popularisé parce qu'elle
Je.
elle a fait une autre version un peu plus jazzy, là, mais oui,
Oui.
c'est. Oui.
Plusieurs. De toute façon, je reviendrai là-dessus tantôt, mais il y a plusieurs de ces chansons qui ont été reprises. Et curieusement, celle-là, ce n'est pas celle qui a été reprise le plus souvent. Mais on y reviendra.
D'accord.
Je vous ai dit tantôt, j'ai appris la semaine dernière que Joni Mitchell vient d'avoir 80 ans. Elle est née le 7 novembre 1943 à Fort McLeod, en Alberta, au Canada. Donc, vous l'avez mentionné tantôt, c'est une Canadienne de naissance. Et à sa naissance, elle a été baptisée Roberta Joan Anderson et non pas Mitchell. Mitchell, c'est quand elle s'est mariée qu'elle a pris ce nom-là. Donc, elle a aujourd'hui, ben, depuis longtemps, la citoyenneté canadienne et américaine parce qu'elle a fait beaucoup carrière aux États-Unis. Je pense que ça, tout le monde est pas mal au courant de ça.
Tout à
Et
fait.
je pense que pas de mal, tout le monde est au courant aussi que c'est une excellente autrice, compositrice, interprète, mais elle est aussi peintre. Et quand elle était plus jeune, je pense qu'elle a déjà envisagé sérieusement une carrière comme artiste peintre. Et elle a appris, quand elle était jeune, elle a appris la guitare, le piano. Et elle joue du dulcimer aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cet instrument-là.
Pas du tout.
C'est pas du tout, hein?
Non.
Ça serait difficile à décrire un peu, mais c'est un instrument à cordes qui peut se jouer un peu comme une guitare, mais d'une façon horizontale. En tout cas, on a déjà entendu un peu du dulcimer, mais ce n'est pas un instrument qui est très, très populaire.
J'entendais, je
Donc,
pense qu'Isabelle voulait intervenir.
oui?
Non, j'étais juste d'accord.
Ah, d'accord.
Moi non plus, je connaissais pas.
Je ne connais pas le dulcimer. Un jour, je vous en ferai une meilleure description.
Ah, mais tu pourrais
Donc,
même en jouer, ça serait le fun.
ouais,
Oui,
il
ça
faudrait
serait
que je m'en
super.
trouve un. Je pourrais jouer d'autres choses, faire croire que c'est un dulcimer, vous ne le verrez pas.
Tout à fait. Alors, ça, c'est la magie de la radio, hein?
Oui, ben oui, on peut en passer un peu. Donc, sa mère s'appelait Myrtle Marguerite, et qui était de descendance écossaise et irlandaise, et son père, William Andrew Anderson, lui, il venait d'une famille norvégienne. Sa mère était enseignante et son père était un lieutenant de l'aviation royale canadienne et il était instructeur pour les nouveaux pilotes. Et ça, c'est intéressant ce fait-là parce que je me souviens à l'époque, le festival de Woodstock, elle n'était pas allée et j'avais entendu dire après qu'elle n'était pas très, très pour ce mouvement, pas contre le mouvement Peace and Love. Mais elle n'aimait pas beaucoup que les jeunes soient contre l'armée, tout ça, parce qu'étant donné que son père entraînait des pilotes pour elle, elle voyait quand même les efforts qui étaient faits par ces personnes-là, puis que les intentions n'étaient pas nécessairement mauvaises. Même si on peut être contre la guerre, faut pas nécessairement décrier ceux qui sont engagés là-dedans un petit peu par défaut, des fois. Donc, elle avait une petite relation un petit peu ambiguë concernant le mouvement Peace and Love. Et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, son père, je pense qu'il a quitté l'armée, il est devenu épicier. Ils sont déménagés en Saskatchewan, à Maidstone et North Battleford, deux villes que je ne connais pas du tout. Et une chose que je me souviens avoir déjà entendu parler, mais ça m'avait échappé, c'est un détail quand même assez important peut-être pas dans sa carrière, mais dans le style qu'elle va développer plus tard. À l'âge de 9 ans, elle a été atteinte de poliomyélite.
Poliomyélite, oui.
Poliomyélite,
Oui.
j'ai de la difficulté à dire ça. Poliomyélite, il faut prendre notre temps. OK.
Faut
Donc,
prendre un café.
on va avoir un bon café corsé, ça va aider aux articulations. Et donc, cette maladie-là menaçait de la laisser infirme. Hein. Je me souviens, à l'époque, c'était quelque chose qui faisait peur un peu. Et pendant son rétablissement, elle a commencé à apprendre la musique. Elle a commencé à chanter dans la chorale de l'église locale. Elle a commencé à prendre des leçons de piano aussi, mais ça, elle était un petit peu rebelle aux leçons. Je pense qu'elle était plutôt rebelle à l'école en général. Elle n'aimait pas se faire montrer, elle aimait apprendre par elle-même. Et à l'âge de 11 ans, la famille est déménagée à Saskatoon. Et je pense que depuis ce temps-là, elle considère Saskatoon comme sa ville natale. C'est probablement l'endroit où elle s'est développée le plus. Elle a laissé l'école à l'âge de 12 ans. Ça, c'est quand même assez
Wow.
particulier. Il me semble qu'à 12 ans, en tout cas. Donc, et son intérêt principal, comme je disais tantôt, elle fait de la peinture. Son intérêt principal était vraiment là, à cette époque-là. Elle a vraiment envisagé une carrière comme peintre. Mais elle voulait aussi jouer de la guitare parce qu'elle aimait beaucoup la musique. Mais sa mère était contre ça. Et si on se rappelle à l'époque, c'est vrai que peut-être que la guitare, ça commençait un peu rock'n'roll, tout ça, mais elle, sa mère, elle identifiait ça un peu plus à la musique country. Elle trouvait que ça faisait trop hillbilly. Elle ne voulait pas que sa fille soit identifiée à ça. C'est quand même particulier quand on repense à ça aujourd'hui.
Ben
Mais elle a quand même fini par apprendre la guitare de façon autodidacte. Et là, je me ramène dans les années 50-60. Je pense qu'il y a plein de guitaristes qui ont fait la même chose qu'elle. Elle a appris la guitare de façon autodidacte avec les livres de chansons de Pete Seeger, qui est un compositeur et chanteur de musique folk.
oui. Ouais.
Donc, on avait la musique, les paroles et la musique avec les diagrammes de guitare au-dessus. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre plus facilement sans apprendre vraiment la théorie musicale.
Mais de nos
Donc,
jours,
c'est
les
de ça.
jeunes font ça sur YouTube.
Ouais, aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on clique sur un nom. Il y a même quelqu'un qui nous le montre étape par étape comment jouer. Mais à l'époque, il fallait prendre des livres. Et quand je vous disais, la poliomyélite avait affaibli sa main gauche. Et ça, s'il y a des guitaristes qui nous écoutent, ils vont très bien comprendre. Les autres, peut-être, ça va être un petit peu plus obscur. Étant donné que sa main gauche avait été affaiblie, c'est la main qui fait les accords, dans le fond, sur la guitare. L'autre main tient le pic, là, mais bon, la main gauche, c'est celle qui est importante pour faire les accords. Et donc, étant donné que sa main était affaiblie, elle a réussi à compenser en accordant sa guitare de façon différente. Et ça, elle n'est pas la seule à
Ah,
avoir fait ça, mais elle l'a fait à cause de cette raison-là. Donc, juste pour faire une histoire courte, une guitare, il y a une façon standard d'accorder les 6 cordes. Puis il y a des façons standards de placer les doigts pour créer des accords. Et elle trouvait ça trop difficile. Donc, elle a changé les notes sur la guitare pour rendre ça plus facile. Mais en même temps, ça donnait un autre son complètement différent. Donc, si on écoute souvent ces guitares, ces chansons où on entend surtout de la guitare acoustique, ceux qui connaissent la guitare, ils remarquent tout de suite que la sonorité est différente. D'ailleurs, Both Sides Now, tantôt, je suis certain qu'il y a plein de guitaristes qui ont essayé de la jouer puis ont fait: c'est quoi qu'à faire? Parce que je ne suis pas capable de faire la même chose qu'elle.
ben, c'est vrai,
Donc,
hein? Oui, c'est vrai.
oui.
En fait, moi, comme tous les jeunes que j'étais à cet âge-là, hein, j'ai joué de la guitare, je grattais ma guitare et
Bon.
puis j'essayais de jouer, puis ça faisait pas le même son.
Absolument. Et je pense que, je ne sais pas si tu as déjà essayé ce qu'on appelle des alternate tunings, hein, mais au lieu d'accorder la guitare mi, la, ré, sol, si, mi, ça peut être ré, la, ré, sol, si, ré, ou etc. Donc, elle, c'est ce qu'elle faisait. Donc, ça lui permettait de faire des accords vraiment pleins avec des fois juste en posant juste un doigt sur une corde. Et Keith Richards fait ça beaucoup aussi. Donc, ça, c'est ce qui a peut-être développé sa façon très, je sais pas comment dire ça. Un peu éthéré, je sais pas trop, ça fait vraiment space des fois la façon qu'elle joue de la guitare. Et je pense que ça a contribué beaucoup aussi à l'aider à créer des mélodies un peu différentes. Étant donné que l'harmonisation était différente en arrière, on remarque souvent des mélodies, quand on l'écoute, ces chansons, on remarque que c'est des mélodies un peu différentes de ce qu'on est habitué d'entendre. En tout cas, de ce qu'on était habitué d'entendre. Dans les années 60, l'époque vraiment du rock and roll, puis le début du hard rock un peu, elle arrivait avec quelque chose de beaucoup très différent. Et ses textes aussi, je pense qu'ils étaient un petit peu plus travaillés, je dirais, que la plupart des chansons pop de l'époque. Et d'ailleurs, petite parenthèse ici, je ne sais pas quelle serait sa réflexion là-dessus aujourd'hui. Mais quand elle a commencé à écrire des chansons, elle était très influencée par Buffy Sainte-Marie. Je ne sais pas aujourd'hui,
Oh, que l'on
avec
ouvre
les
une, on
nouvelles.
ouvre une boîte de Pandore ici.
Oui,
En fait,
oui.
je vais quand même me permettre, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas au courant, et un reportage qui a été produit par la CBC remet en question les origines autochtones ou des Premières Nations de Buffy Sainte-Marie.
Ah
Et
bon.
c'est, oui, c'est assez grave et. Donc, ça a créé tout un émoi là, dans la colonie artistique anglophone et même ici au Québec. Alors oui, fallait le souligner. Merci de le
Oui,
dire,
fallait
oui.
souligner. Et je pense que peut-être que Joni Mitchell répondrait que oui, c'est un petit peu choquant d'entendre cette histoire-là, mais que ça n'enlève probablement rien à sa façon d'écrire des chansons. Fait que probablement qu'elle a été influencée par Buffy Sainte-Marie, pas par son histoire, ses supposées origines autochtones, tout ça, mais par sa façon de travailler. Donc, je pense qu'elle s'en tiendrait à ça probablement si on lui posait la question. Il y a probablement quelqu'un qui va le faire, qui va lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, mais bon. Donc, elle a appris à jouer de la guitare, elle a commencé à jouer. Elle a rencontré en 1965 un certain monsieur Chuck Mitchell. Donc, ils vont se marier un peu plus tard et c'est là qu'elle va adopter le nom de Joni Mitchell. Et même s'ils sont divorcés 2 ans plus tard environ, elle va toujours garder le nom de Joni Mitchell et donc elle a fait sa carrière avec ce nom-là. Et en 1967, ça, c'est une rencontre qui a été très, très importante. Il y a un certain monsieur David Crosby qui l'a découverte. Il l'a découverte, c'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est
Oui,
comme ça qu'on
c'est
dit
ça.
ça. Bon. Pendant qu'elle jouait dans un bar à Coconut Grove en Floride, et il a été vraiment impressionné par son talent d'interprète. Et donc, il l'a ramené avec lui à Los Angeles et ils ont enregistré un premier album en mars 1968 qui s'appelait Song to a Seagull, ou certains l'appellent tout simplement Joni Mitchell, son premier album. Et ensuite, en 1969, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelait Clouds. Et c'est cet album-là sur lequel on retrouve Both Sides Now, la chanson qu'on a entendue à l'ouverture. Et je veux juste reculer un petit peu quand j'ai dit un monsieur David Crosby. Personne n'a réagi, mais c'est le David Crosby de Crosby, Stills, Nash & Young.
Ah, ok,
Donc,
je savais pas. Ah, ouais,
on
d'accord.
s'entend que ça, pour quand je dis que ça a été une rencontre assez importante, mettons que lui était
Quand
déjà
même, hein? Ouais.
commencé à s'établir un peu. À l'époque, c'était avec le groupe Buffalo Springfield. Donc, ça a été important pour elle. Et là, ça fait assez longtemps que je parle. Je pense que ce serait important qu'on écoute. J'ai monté un extrait de plusieurs de ses chansons parmi les plus connues et d'autres peut-être moins connues, mais pour vous donner une meilleure idée de ce qu'elle a fait comme musique.
Allons-y. Daniel, je suis
Oui.
déçu. T'as pas mis un extrait de Big Yellow Taxi. They've paved paradise, put up a parking lot.
Ouais, je voulais pas brûler le punch,
Ah,
mais
excuse-moi, maudit. Je l'ai
non,
encore
non, mais je voulais pas plomber. Non, mais étant
fait.
donné, je vais attraper la balle au bon. Hier, j'ai hésité beaucoup quand j'ai préparé cette chronique-là, et pour fermer la chronique, j'hésite encore. J'hésite entre deux chansons pour fermer la chronique. J'ai Twisted Big Yellow Taxi.
Ah, ben...
Alors, je vous laisse le temps d'y penser. Quand ça sera le temps, ben, on passe au vote.
OK, ben écoute,
J'ai l'impression que
Mathieu.
Big Yellow Taxi va avoir pas mal de votes actuellement.
Mathieu, va chercher ça parce qu'on va voter. Puis
Bon,
le vote de l'animateur va peser lourd dans la balance.
bon, bon, bon. C'est
Ben
moi,
non.
je suis
Attention,
loin.
il n'y aura pas une grosse compétition.
Ah, je suis pas fait. Non,
Faut pas
non,
que je me trompe de bouton, par contre.
Ouais, ben là, moi, étant donné que je suis loin du bouton, je pense que mon vote n'aura pas de poids beaucoup. Mais en tout cas, je vous ai quand même offert deux très bonnes options, je pense. Twisted, pour ceux qui ne la connaissent pas, que ça ne leur dit rien, c'est une chanson un petit peu plus jazzée au début, c'est juste, on entend seulement sa voix et la contrebasse. Ça peut être assez intéressant aussi, mais effectivement, je pense que Big Yellow Taxi, c'est probablement son plus gros hit qui a été repris le plus de fois aussi.
Tu nous as fait
Donc,
entendre des extraits, puis il faudrait en parler parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a rappelé aussi pourquoi on l'aime tant, cette voix incroyable.
Oui, effectivement.
Vraiment.
Et c'est sûr que sa voix s'est transformée un peu avec
Ben
le
oui.
temps. Hein. Quand on écoutait les premières comme Woodstock, elle avait une petite voix fine, très aiguë. Mais c'est vrai que, bon, avec l'âge aussi, on change un peu. Et juste faire un petit résumé des extraits que je vous ai fait entendre. On a entendu un extrait de Woodstock, de Help Me, Free Man in Paris, The Dry Cleaner from Des Moines et Raised on Robbery. Et je vais faire un lien ici parce que Woodstock, je pense que plein de monde pensait que ça avait été écrit par Crosby, Stills, Nash & Young parce que c'est eux qui ont fait la version qu'on a entendue le plus à la radio, une version plus rock. Mais c'est vraiment Joni Mitchell qui a écrit ça. Et le lien que je fais justement, c'est que c'est David Crosby qui l'a découverte, qui l'a emmené en studio à LA pour faire enregistrer ça. Et lui a repris cette chanson-là avec son groupe Crosby, Stills, Nash & Young, et il en a fait un très gros hit. Donc, c'est quand même assez. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui connaît la version, ben, l'originale, dans le fond, celle qu'on a entendue. Moi-même, quand je l'écoute, je trouve que c'est un petit peu trop space, peut-être, pour passer à la radio. Je pense qu'on n'a pas entendu beaucoup à la radio parce que c'est une chanson où on l'entend seulement. Elle est seule au piano électrique avec sa voix, et ça manque peut-être un petit peu de punch pour la radio, on s'entend.
J'allais
Donc,
dire que ça manque peut-être d'un petit peu d'herbe de Justin, voilà.
voilà. Oui. Donc, pour résumer sa carrière, quand même assez impressionnante, elle a fait 19 albums studio.
Wow.
Elle a produit 5 albums live, 9 albums compilation. Ça, c'est quand même un bon ratio. Il y a certains groupes qui ont eu plus d'albums compilation après à la fin de leur carrière qu'ils avaient fait d'albums studio. Elle a fait plus d'albums studio. Et elle a fait aussi 7 vidéos. Je ne sais pas aujourd'hui si on peut encore dire que ça a une importance. On parle ici de vidéos. Je suppose que c'était disponible sur DVD ou peut-être même VHS à l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui, on peut probablement avoir tout ça en streaming sur YouTube ou peu importe. Donc, ceux qui sont intéressés en savoir un peu plus sur Joni Mitchell, je pense qu'il y a plein de documents qui existent. Et en 1990,
Oui, on va
il y
aller
a
vite,
des
on veut
années
jouer la
où on...
chanson, oui, vas-y.
Ouais, OK. Rapidement, bon, je vais sauter plutôt les nominations. Elle a eu 17 nominations pour les Grammy Awards, elle en a gagné 10. Elle a eu 11 nominations au prix Juno au Canada, elle en a gagné 3. En 1981, elle a été intronisée au Canadian Music Hall of Fame et elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame aux États-Unis en 1997. Donc, on parle d'une carrière quand même assez marquante. Et tantôt, on parlait de Big Yellow Taxi, justement. Ça a été repris par 137 artistes différents. Quand je dis repris, des enregistrements là, qui ont été édités,
Ben,
diffusés.
on va
Pas
devoir,
seulement des gens qui.
on
Oui.
va, on va devoir y aller si on veut l'écouter avant la fin de la
OK.
demi-heure.
Donc,
Merci
on va
beaucoup.
prendre Big Yellow Taxi à 15 minutes, 15 secondes de moins que l'autre.
Parfait. On y va.
OK,
Merci
bye.
beaucoup encore.
Bye.